Chapitre 29. Antoine.
Pousse-toi, Bolduc.
Tu tentes de repousser mon chat, comme si tu étais jaloux des câlins que je lui promets. Je proteste en le laissant s'asseoir sur les feuilles étalées sur la table. Laisse-le, Antoine. Je l'aime bien, ton gros matou.
Oui, je vois ça. D'habitude, il s'enfuit sous un lit dès qu'un étranger entre au Montfortin. Mais toi, Elisa, faut croire qu'il t'a déjà croisé dans une autre vie.
Elisa. Les chats en ont 7, n'oublie pas. Je souris. Tu m'as raconté sans entrer dans les détails que ton père l'avait récupéré il y a un peu plus de 10 ans. Il s'appelait Bolduc, il avait perdu ses maîtres. Ta mère l'avait aussitôt adopté. Je sais que ce n'est pas mon chat qui va me dénoncer. Il peut venir me câliner autant qu'il veut. Comment pourrais-tu imaginer qu'il a dormi dans mon lit quand il était bébé? Qu'il est le mien à jamais? Et que l'entendre ainsi ronronner en se frottant à moi me donne le courage dont j'ai besoin pour continuer. Nous sommes installés, toi et moi, devant la table de salon. Sage et studieux. Proches l'un de l'autre, mais tu n'as tenté aucun geste déplacé. À peine as-tu frôlé ma main en me tendant un stylo, ou ma cuisse en rapprochant ta chaise pour qu'on lise les mots que tu avais griffonnés de ton écriture appliquée, presque féminine, avec des boucles soignées et des ronds à la place des points sur les i. Depuis 30 minutes que nous sommes assis, les tracts pour la manifestation de demain n'ont pas beaucoup avancé. De toutes les façons, pas besoin de ces bouts de papier pour mobiliser. Après l'assaut du rectorat, tu m'as raconté que vous étiez plus de 10 000 étudiants à défiler dans les rues de Rouen cet après-midi. Et ça recommence demain matin. Je suis montée à pied jusqu'au Montfortin, une bonne heure de marche en partant du centre-ville. J'ai ravalé mes larmes au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le labyrinthe des ruelles en pente, avec vue sur les flancs boisés des collines. Je n'ai pas réussi à reconnaître l'endroit précis où le camion était sorti de la route, où les sapins nous avaient attirés comme des sirènes de Noël, où Stevie avait perdu la vie. Peut-être a-t-on rasé ce sapin depuis et construit dessus une de ces maisons modernes aussi cubiques et plates que des cercueils. Tu avais laissé le portail du Montfortin ouvert. Tu me guettais par la vitre de la véranda. J'ai eu un pincement au cœur en pénétrant dans le parc. C'est la 3e fois que j'entrais ici, chez mon pire ennemi. Celle qui donnait un sens à tout ce que j'avais imaginé, programmé, espéré depuis des années. Revenir. Punir. Je te voyais ne pas me lâcher des yeux au fur et à mesure que j'avançais dans l'allée. J'avais enfilé une simple robe fleurie sous un blouson de daim ultra court, cheveux détachés, une opale rose se balançant sur ma poitrine. Je devine que c'est ce genre de fille que tu rêves d'embrasser, de déshabiller et de posséder. Une fille que tu imagines différente et indépendante, dont la touche de fantaisie vestimentaire laisse espérer une personnalité originale.
« Je sais !» me réponds-tu enfin. Je connais tout sur les chats, figure-toi. Ma mère en élevait. Mais c'est terminé, sa période angora. Ils sont tous échappés.
Tu regardes les arbres du parc avec un sourire amusé, comme si certains matous précieux s'y cachaient toujours. Une nouvelle fois, j'ai l'impression de revivre cette nuit mortelle de Noël. L'alarme qui se déclenche, notre course folle, Karim, Nina et moi, Stevie qui appuie à fond sur l'accélérateur. Ta main touche la mienne pour la première fois, au prétexte de caresser Bolduc en même temps que moi.
Tu débarques dans une famille bizarre, Elisa. J'aime autant te prévenir. Malgré tout ça,
tu désignes d'un geste vague le parc, la maison, le panorama.
Je m'y suis jamais sentie chez moi.
Je devine que le moment est venu pour tes confidences et je sais à l'avance que je ne les aimerai pas. Parce que tout le mal que tu me diras sur ta famille n'y changera rien. Parce que tes caresses sur le bout de mes doigts, c'est la première fois que je laisse un garçon me toucher ainsi, ne me troubleront pas. Parce que tu auras beau faire le coup du repenti timide, prêt à renier ses origines, rien ne me fera dévier de ma route.
« J'aime pas cet argent »,
déclares-tu de ta voix douce et calme. Même la colère chez toi prend des allures d'exposé de bon élève.
Je déteste ce fric. Même si je sais que ça ressemble à un caprice de riche. J'ai toujours connu ma mère dépressive, incapable de la moindre gentillesse et de s'intéresser à autre chose qu'à ses problèmes. Quel problème d'ailleurs. Ma petite sœur méprise la terre entière, à l'exception de ceux qui ont encore plus d'argent qu'elle. Elle est dans sa phase. La France ne me suffit pas, ceux qui réussissent ici, on ne les aime pas. Faudrait qu'elle m'explique ce qu'elle a bien pu réussir dans sa vie. Quant à mon père, je sais pas ce qui est le pire. Qu'il trompe ma mère sans prendre la peine de s'en cacher, ou qu'il soit prêt à tout sacrifier pour son ambition. Il est soi-disant le grand patron de l'action sociale. Il faut voir comment il parle de la misère à la maison. Les aides? Du pognon jeté dans un puits sans fond. Mais jamais il ne le dira en public, encore moins depuis qu'il fait de la politique. Dès que j'aborde la question, il me traite de naïf ou de petit con. Il était pourtant un travailleur social plutôt compétent et motivé à ce qui paraît, quand il a commencé avant de se marier. Compétent et motivé? Si seulement je pouvais te révéler ce que je sais, Antoine. Tes doigts se perdent toujours dans la fourrure de Bolduc, jouant à cache-cache avec les miens. Peut-être que je vais finir comme lui, moi aussi. Peut-être que tous les petits cons naïfs finissent comme des gros cons. Ça te donne pas envie de fuir, Elisa? Ce nouveau prénom me surprend à chaque fois. Je ne dois rien laisser filtrer. Non, Antoine. T'es pas comme eux, ça se voit. C'est vrai, cela se voit, tu n'es pas comme eux. Je n'ai rien contre toi. Tu n'es que l'outil de ma vengeance. Un instrument. Tu n'es rien de plus qu'une arme tranchante que je planterai au bon moment.
Et toi?
Me demandes-tu.
Ta famille?
Oh, y a rien à en dire. J'ai grandi en banlieue. J'aime ma famille, contrairement à toi. Mais j'ai quand même tout fait pour ne plus vivre avec eux. C'est compliqué d'échapper au quartier. Ta main emprisonne le bout de mes doigts. Bolduc en a profité pour s'échapper.
C'est ce que j'aime chez toi. T'es vrai. T'es la première personne vraie que je rencontre. Et la plus jolie. Ça aussi, c'est vrai.
Je ne sais pas si je suis capable de rougir sur commande. J'essaye, du moins. Les rouges de honte et de timidité doivent se ressembler. Mes doigts se faufilent pour s'échapper. Mes yeux se posent sur les tracts éparpillés, plus noircis par les poils que Bolduc a perdus que par les mots que l'on a écrits. Je minaude. On n'était pas là pour travailler? Pour de vrai? Tu repousses les feuilles d'un revers de main. Tu te penches pour m'embrasser. Pas si vite, Antoine. Juste une seconde. T'as des toilettes?
Bien sûr que non. Chez les vidames, on ne s'abaisse pas à des activités aussi triviales.
Je souris et je me lève. Je vais chercher. Je caresse ta joue avant de m'éloigner.
Quand je reviens, je veux que t'aies trouvé la formule qui mettra 5 millions de personnes dans la rue contre le plan Juppé.
Non, Bolduc. Allez, oust! Je dois y aller seule. J'écarte à regret mon chat. Le pauvre. Je le vois 3 fois en 12 ans et je le repousse encore. J'ouvre la porte de la cave. Je descends l'escalier à la seule lumière d'un soupirail. Il est suffisant pour éclairer le sous-sol d'une faible clarté. Je distingue d'abord un établi, des outils de bricolage, de jardinage. Je descends encore quelques marches. J'ai l'impression de connaître par cœur ce garage. Je l'ai visualisé tant de fois dans ma tête. Le nombre de marches, les sacs de terreau empilés sur les étagères, les pelles et les râteaux appuyés contre les murs. Les 3 voitures, dont l'une à la carrosserie noire, bâchée. Je m'arrête enfin, saisie d'un vertige. L'espace devant moi est vide. Il n'y a plus aucune voiture bâchée dans la cave, aucune Volvo noire. Seulement une Mercedes et la Mini Cooper de Rosanna. J'encaisse le choc. Je ne m'y étais pas préparée. Ma dernière visite remonte à 6 ans. Vidame roulait déjà avec cette voiture il y a 12 ans. Elle est sans doute partie à la casse, rien de plus normal. On préfère les voitures neuves quand on a les moyens d'en changer. Sauf qu'avec la disparition de la Volvo Black Star, c'est la dernière preuve qui disparaît. Désormais, comment prouver que la voiture photographiée devant le corps de maman, sur la rocade, sous la passerelle de l'immeuble Sorano, une Volvo noire immatriculée 5265 JD76, était bien dans cette cave il y a 6 ans? La photo prise par Nina ne suffira.
« Y a pas de toilette à la cave !»
fait une voix derrière moi. « Antoine,
Je repense aussitôt à la façon dont Consuelo m'avait expulsée du Montfortin le jour de son anniversaire. Vas-tu en faire de même ?
On creuse directement un trou au fond du parc,
précises-tu avec humour, comme si mes explorations chez toi ne te préoccupaient pas plus que cela. Je tente une explication maladroite.
Je regardais les voitures. Je suis fan. Mon père adore les belles voitures. Tu sais, dans les cités, y a que ça et le foot pour faire rêver les mecs.
Et pas que dans les quartiers. Mon père aussi aime bien. Enfin, pas le foot, mais les caisses, oui.
Il a eu quoi comme voiture ?
Tu me regardes d'une drôle de façon. Mais peut-être n'est-ce que parce que tu détestes tout ce qui roule, possède un moteur et fait du bruit. Et que tu ne t'imaginais pas partager cette conversation avec moi.
Je sais plus trop. Une 205 GTI, je crois. Cette Mercedes. Et il y a longtemps, une Volvo 244 aussi.
Je joue l'enthousiasme d'une petite fille. Une Volvo 244 ? Un de mes cousins en a retapé une. Il l'a plu ?
Non, on a été cambriolés il y a 6 ans. C'est ce jour-là que les chats de ma mère se sont échappés et que la voiture de mon père a été cabossée. Du moins, je crois. En tous les cas, il s'en est séparé.
J'espère être parvenue à masquer ma surprise. La Volvo Black Star cabossée lors du cambriolage ? Impossible. Ni moi ni Nina n'y avons touché. Vida m'a menti. À sa famille. Aux flics aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a pris peur. Il savait forcément qui j'étais, et donc pourquoi je venais. Il a voulu se débarrasser de cette voiture, parce qu'il avait peur que je parle et que les policiers enquêtent. Qu'aurait-il trouvé sur le pare-choc de sa Black Star ? Tu poses tes deux mains sur ma taille.
On s'en fout de cette voiture, non ?
Je me rends compte que je suis allée trop vite, qu'une nouvelle fois je me suis montrée imprudente. Tu es naïf, Antoine, mais pas stupide. Je n'ai pas le choix. Je me retourne et pose doucement mes lèvres sur les tiennes. Mes seins se pressent contre ton torse, mon ventre frôle le tien, juste assez pour sentir ton désir.
Viens.
Me souffles-tu ?
Pas ici, c'est glauque.
Tu me tires par la main pour me forcer à remonter. Je jette un dernier coup d'œil à la cave, trop vide, trop bien rangée, trop... Je remarque, rangée derrière des outils, des vieux classeurs, des chaînes pour pneus et des lampes torches, un étrange chandelier. Je reste fixée sur le métal argenté. C'est quoi ? Tu suis mon regard.
Une menorah. Un chandelier à 7 branches, si tu préfères. Ça vient de mon arrière-grand-mère, du côté de ma mère. Je l'ai jamais connue, tu t'en doutes. Je suis pas plus juif que toi, ça remonte à 4 générations. Mais pendant la guerre, une seule goutte de sang suffisait.
Nous avons laissé les tracts étalés sur la table. Tant pis pour la révolution. Tu as fermé la porte de ta chambre au nez de Bolduc, qui avait pourtant très envie d'entrer. Tu t'es assis sur le rebord de ton lit, sans oser t'y allonger, sans oser tapoter le drap du plat de la main pour m'inviter. Moi, je suis restée debout, à regarder ta chambre. Dans mon souvenir, il y a 6 ans, elle était beaucoup moins rangée. Je te soupçonne d'avoir fait le ménage en prévision de ma visite. Des feuilles ont été entassées trop vite dans la poubelle, les piles de livres trop hautes menacent de s'écrouler, une chaussette dépasse d'un tiroir, où, sans doute avec le reste de tes habits sales, elle a été priée de se cacher. Je te trouve attendrissant. Je ne dois pas me laisser attendrir.
Viens t'asseoir à côté de moi,
oses-tu enfin me demander.
J'ai un cadeau pour toi.
Je m'assois. Tu te penches vers le tiroir de ta table de chevet et en sors un téléphone Motorola GSM encore emballé. J'en reste muette une demi-seconde, avant de sincèrement protester.
Tu plaisantes ? Ça vaut une fortune. Je peux pas accepter.
J'en ai eu 2 au Noël dernier. Tu vois à quel point on communique dans la famille. Ça me ferait plaisir que t'acceptes celui-ci. C'est important. Pour la révolution.
Il faut qu'on puisse être en contact tout le temps.
C'est le béaba entre 2 militants.
Je serre l'étui de plastique entre mes doigts. Je regarde le téléphone, puis je le pose avec précaution sur le lit.
Merci.
Merci à toi d'être ici.
Tu m'embrasses. Tu m'embrasses avec une fièvre inconnue. Mais je sais que mon sang doit rester aussi froid que celui d'un serpent. Tu appuies délicatement sur mes épaules et d'un geste de tendre catcheur, tu me fais basculer sur le lit. Mon cœur ne doit pas s'affoler. Mes pensées ne doivent pas se précipiter. Tu m'embrasses encore, sur les joues, dans le cou. Tes mains se faufilent sous ma robe. Mes sens ne doivent pas m'échapper. Je dois tout contrôler. Des frissons dans mon cou à la pointe durcie de mes seins. Tu descends, embrasses mon ventre. T'accroches à mes hanches. Je ne dois pas laisser s'échapper tous ces papillons affolés dans mon ventre. Tes mains vont et viennent le long de mes jambes de laine. Je dois contrôler ce désir. Je ne dois pas laisser cette volupté inconnue m'envahir. Je n'ai fait qu'une fois l'amour à la prairie, avec un garçon de passage que je n'aimais pas, pour être débarrassée de cette première fois, pour ne pas te l'offrir. Ma peau de laine glisse sur mes cuisses, roule en boule sur mes chevilles, valse quelque part dans la pièce. Ta bouche a retrouvé ma bouche. Tes mains hésitent à s'inviter sous ma dentelle. Mon cerveau doit s'organiser. Je dois sauver ce qui peut être sauvé. Il y a urgence. Je dois tout séparer en deux compartiments étanches. Dans l'un y placer ma vengeance, ma haine des vidames, mon destin, mon dessein, tout ce qui fait de moi une femme qui ne s'attachera à rien ni personne. Et sitôt cette moitié de mon cerveau cadenassé, t'embrasser. Tu es surpris de mon audace soudaine. Ma robe s'envole au-dessus de ma tête. Ta chemise flotte avant de s'écraser. Ta chambre est de nouveau en bordel. Tu balances ton pantalon de petit garçon sage et tes deux chaussettes. Tu me regardes, halluciné, comme un ado prépubère devant son premier bikini. Je ne dois pas me trouver jolie dans tes yeux. Tu prononces des mots inaudibles, inavouables, des bêtises guidées par les élans du corps, pas par le cœur. Je ne dois pas les écouter. Et ceux qui me parviennent quand même, ceux qui riment en « m », je dois eux aussi les jeter dans un sac qui finira noyé dans la Seine. Tu parles et tu me dévores à la fois. Tu me caresses et tu me dégrafes en même temps. Tu es plutôt doué pour un inexpérimenté. Tout ton corps s'appuie sur moi. Tu es plutôt rigide pour un timide. Je ne dois pas succomber au vertige. Je ne dois pas basculer dans le vide. Et pourtant je t'invite. Je prie pour que tout aille vite. Aucun dieu ne m'écoute. Tu es plutôt endurant pour un débutant. Et quand enfin tu laisses ton désir exploser en moi, comme électrocuté d'amour, tu abandonnes ta tête contre ma poitrine et tu fonds en larmes. Je ne dois pas laisser cette douce euphorie me gagner. Je ne dois pas perdre mes doigts dans la soie de tes cheveux frisés. Je ne dois pas droguer mes lèvres à ta peau mouillée. Je ne dois pas avoir envie de recommencer, je ne dois pas m'attacher, je ne dois pas. Mes mains parviennent à attraper un livre sur la table de chevet. Je fais tomber les 9 autres empilés dessus, mais j'ai saisi celui à la tranche rouge et or. Le vacarme ne te fait même pas sursauter. Tu te retournes doucement, poses ta joue contre mon cou, ton menton sur mon ventre, pleine vue sur ma poitrine, un bras en archet sur mon ventre. C'est trop étrange. Dis-je. Petite, j'avais le même.
Je t'aime.
Je souris. Je suis sérieuse, exactement le même. Les contes d'Andersen, édition 1949. Tu sais d'où vient le tien ? Tu embrasses les premières pentes de ma gorge alors que ton bras joue les 4 saisons.
Je sais pas, je l'ai toujours eu.
Et une nouvelle fois, la coïncidence me paraît impossible. Ce livre m'a été offert par ma grand-mère. Pourquoi aurais-tu reçu le même, au même âge que moi ? Une nouvelle fois, tu bouscules mes idées.
De toutes les histoires, quelle est ta préférée ?
Est-ce un piège ? Dois-je parler de Poucette et de Maya, la reine des êtres volants ? Dois-je parler du vilain petit canard ? De la petite sirène ? La petite fille aux allumettes ? La princesse aux petits pois ? D'Elisa et des cygnes sauvages ?
« Moi, »
dis-tu en me voyant hésiter,
« c'est le vaillant soldat de plomb. »
Tu embrasses un de mes tétons.
« Tu trouves pas qu'il nous ressemble ? Un soldat unijambiste tombe amoureux d'une danseuse qui se tient en équilibre sur un pied. et croit qu'elle possède le même handicap que lui et se persuade qu'elle sera une femme idéale. Il ne se doute pas qu'elle est encore plus parfaite qu'il ne le croit. Tu embrasses mon second téton. Je dois trouver quelque chose à répondre. Vite. Ou toutes mes résolutions rangées dans le coffre cadenassé de mes pensées vont s'échapper. Tu veux vraiment qu'on finisse comme eux ?
Brûler ensemble dans un poêle à bois ? Qu'il ne reste de nous qu'une paillette et qu'un cœur de plomb ? Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, en effet. Mais tu te trompes, Antoine. C'est toi la danseuse. Et moi l'intrépide soldat au cœur de plomb. Je dois me rhabiller maintenant. Je dois imaginer la suite de mon plan. Je dois trouver d'autres preuves, puisque Vidame s'est débarrassé de la Volvo noire. Je dois... J'entends des pas dans le couloir. Toi non, reperdu dans tes pensées, trop concentré sur l'entraînement de tes baisers, le perfectionnement de ton doigté. Je me redresse. Quelqu'un marche de l'autre côté de la porte.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je saute hors du lit, entièrement nu. Je frappe un peu trop le parquet avec la plante de mes pieds. Attends-moi, Antoine. Je reviens.
Où tu vas ?
Je ne te réponds pas. Je me contente de tirer sur le drap du lit et de m'envelopper dedans. Je tourne la poignée, je sors, et je referme la porte derrière moi.